attribuait à ce descendant de Noé là-bas. Jésus leur expliqua ceci. Il leur expliqua que Jemshid était un homme naturellement habile, d'une sagesse certaine, qu'il avait dirigé des peuples, qu'il avait pris la tête d'une tribu à la suite de la confusion de la tour de Babel, et l'avait conduit dans des régions qu'ils avaient peuplées successivement. Jésus leur expliqua également qu'ensuite il y a eu d'autres chefs comparables à lui, mais que ces derniers, après lui, avaient conduit des entreprises plus mauvaises, parce que sa race n'était pas aussi dépravée que la leur. Et Jésus leur montra aussi combien de fables avaient été écrites à propos des fondations de la civilisation de l'Inde, et comment il apparaissait comme une caricature médiocre du prêtre et roi Melchisédek. Jésus leur enseigna ceci. Portez plutôt votre intérêt sur Melchisédek et sur la race d'Abraham. Car lorsque les peuples ont commencé à disperser, Dieu a envoyé Melchisédek aux familles les plus pieuses de la terre, afin que Melchisédek les guida et les unit, qu'il leur prépare des territoires et des endroits où ils puissent s'établir et où ils pourraient devenir, suivant leurs œuvres et leur pureté, leur sagesse, leur grâce, leur langue et leur culture, de plus en plus dignes de la grâce de la rédemption. Jésus leur dit qu'ils devaient chercher à savoir qui était Melchisédek, car c'était bien vrai qu'il était la préfiguration de la grâce, de la promesse du salut universel, désormais si proche de son accomplissement, et que son offrande du pain et du vin devait à présent s'épanouir pleinement et s'achever pour demeurer jusqu'à la fin du monde. Chapitre 8, dans Anne-Catherine Emmerich, la tour de Babel. Si vous permettez, je passe. Chapitre 10. L'origine de la Kabbale, je passe. Pendant longtemps, les hommes de cet âge-là calculèrent l'âge des ancêtres et des descendants de façon à faire coïncider la date de la mort du père avec celle de la naissance du fils. Et les rois, qui étaient en perpétuel conflit avec les prêtres au sujet des généalogies, s'inventèrent des ancêtres qui n'avaient jamais existé et on compta en Égypte ainsi dans cette civilisation comme descendants de père en fils les quatre rois de même nom qui régnèrent en fait simultanément, l'un à Thèbes, l'autre à Memphis, l'autre à Héliopolis et l'autre à Saïs. J'ai vu également que l'on compta une fois 970 jours pour un an, et que par ailleurs on calculait autant d'années qu'il y avait de mois dans une période. J'ai même vu un prêtre d'idole qui faisait une opération dans laquelle 500 ans étaient systématiquement convertis en 1100 ans. J'ai vu Jésus dénoncer ces faux calculs de temps, et le culte rendu aux idoles dans l'enseignement du sabbat à Ruma. Jésus expliquait cela devant les pharisiens lorsqu'il leur parla de la vocation d'Abraham et de son passage en Égypte. Et il dénonça à cette occasion les falsifications dont les Égyptiens s'étaient rendus coupables. Jésus dit aux pharisiens que le monde avait alors 4028 ans et lorsque j'entendis le Sauveur dire cela, lui-même était âgé de 31 ans. Ah, je découvre avec vous que le monde n'est pas si vieux que ça. J'ai vu en ce temps également des personnes qui vénéraient Seth à l'instar d'une divinité très puissante et qui accomplissait de longs et périlleux voyages pour se rendre sur son tombeau qu'on croyait situé en Arabie. Il y a encore dans le monde, dans l'époque d'aujourd'hui, 19e siècle, de telles personnes qui, passant par la Turquie où la voie leur est libre, se rendent encore sur ce tombeau. Mais portant l'attention sur ce que Jésus avait enseigné, vous devez plutôt mettre votre attention sur Melchisédek. Je fus moi-même amené à le voir souvent, non pas comme un homme, mais comme un être d'une autre nature, un ange envoyé de Dieu, de la terre au ciel, sous forme humaine. Jamais je n'ai vu qu'il ait eu une résidence déterminée, une patrie, une famille, des parents. Jamais je ne l'ai vu manger, ni boire, ni dormir, ni ascendance, ni descendance, et jamais la pensée ne m'a effleuré qu'il peut être un être humain. Il était en fait vêtu comme aucun prêtre ne l'était alors. Il était plutôt vêtu comme les anges que j'ai moi-même vus contempler dans la Jérusalem céleste. Et comme je vis plus tard Moïse faire effectuer les vêtements des prêtres, selon les ordres que Dieu lui en faisait. J'ai vu Melchisédek intervenir, ça et là. Il apparaissait, agissait dans les affaires qui concernaient les peuples, comme par exemple lorsqu'on célébrait la victoire après des guerres si terribles de cette époque. Là où il intervenait, là où il se trouvait, une puissance irrésistible émanait de sa personne. Personne ne se dressait contre lui. Et pourtant, il n'avait pas besoin d'user de la force, de quelconque autorité. Tous les hommes, pourtant, à donner à l'idolâtrie, accordaient immédiatement et volontiers la priorité à ses choix, sa parole ou son conseil. Le nom de Melchisédek vient de l'hébreu. Melchisédek, c'était le roi de Salem, le maître de la justice, le roi de la paix, et prêtre du Très-Haut. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul fait référence à Melchisédek comme étant la préfiguration immortelle de Jésus. Melchisédek n'avait pas de semblable, pas de familier, il était toujours tout seul. Pourtant, parfois, il fut accompagné de deux messagers qu'il envoyait devant lui, qui étaient deux coureurs courtement vêtus de blanc, qui se chargeaient d'annoncer son arrivée çà et là, et puis Melchisédek les renvoyait. Tout ce dont il avait besoin, il l'avait ou le recevait. Les personnes à qui il demandait quelque chose ne le lui refusaient pas, et même le donnaient avec joie. Au contraire, on se félicitait là où il venait, on le craignait quelque peu, on l'entourait d'honneur. Les méchants s'effaçaient devant lui et s'humiliaient, même s'ils s'en trouvaient mal. Il en était pour Melchisédek, être d'une essence supérieure parmi ces grands personnages païens, en partie sans foi et dépravé, comme il en est actuellement pour toute personne pieuse et particulièrement droite qui arrive quelque part où elle n'est pas connue et fait le bien autour d'elle et fait l'admiration silencieuse, comme si quelqu'un venu d'ailleurs, d'un au-delà, était passé au milieu d'eux. C'est ainsi que je l'ai vu à la cour de Sémiramis à Babylone. La reine Sémiramis avait là une puissance et un faste indescriptibles. Elle avait fait réaliser les plus somptueuses constructions par des esclaves qu'elle traitait encore plus rigoureusement que Pharaon ne traita les enfants de Jacob en Égypte. Il régnait là également la plus effroyable idolâtrie. On sacrifiait des êtres humains que l'on enterrait jusqu'au cou. Tout le confort, les plaisirs, le faste, les richesses et les arts s'épanouissaient là. Tout frisait l'impossible. Sémiramis entreprenait aussi de grands combats avec de monstrueuses armées, et presque toujours contre les peuples d'Orient. Elle allait fort peu vers le couchant et vers le midi. Vers le midi, des peuples à la peau sombre et basanée vivaient. Dans son pays, une tribu très nombreuse s'était peu à peu développée, à partir de la souche sémitique restée à Babel après la construction de la tour de Babel. Ils vivaient sous la tente, comme un petit peuple de pasteurs, avec des troupeaux, et célébraient leur service divin au cœur de la nuit, dans une tente découverte ou en plein air. Ils recevaient beaucoup de bénédictions. Tout leur réussissait et leur bétail était toujours particulièrement beau, foisonnant. La femme diabolique voulait anéantir cette tribu et en avait déjà décimé une grande partie. C'est en constatant les bénédictions qui favorisent cette tribu que Sémiramis reconnut combien Dieu la prenait sous sa protection miséricordieuse aussi. Aussi, comme instrument du diable, elle voulut la faire disparaître. Lorsque les malheurs de cette tribu atteignirent leur paroxysme, Melchisédek intervint. Il se rendit auprès de Sémiramis, passa au milieu de la cité, pénétra dans son royaume, alla auprès d'elle et demanda de laisser partir cette tribu. Il lui reprocha aussi cette turpitude. Sémiramis l'écouta, n'osa pas agir contre ses paroles et conduisit la tribu martyrisée, répartie en divers groupes vers la terre promise. Melchisédek avait comme habitation un campement près de Babylone et là, il leur fit connaître le pain dont ils apprirent d'abord à tirer leur force. À Canaan, il leur indiqua ça et là des emplacements pour bâtir, et ils reçurent comme patrimoine une région déterminée. Ils furent eux-mêmes tenus à l'écart d'autres populations, à cause de la dureté des autochtones, et afin de ne pas se mêler à elles. Leur nom ressemble à celui de Saman ou de Seman. À certains d'entre eux, Melchisédek attribua comme territoire la région de la mer morte, mais cette ville est disparue aujourd'hui, elle a été détruite avec Sodome et Gomorre. Sémiramis avait accueilli Melchisédek avec un grand respect, une secrète terreur à cause de sa sagesse et de sa lumière rayonnante. Il lui apparut comme le roi de l'étoile du matin, c'est-à-dire de l'Orient lointain. Elle s'imaginait qu'il pourrait la demander en mariage. Mais lui, il lui parla très sévèrement. Il lui dévoila ses dépravations, lui prophétisa la destruction de la pyramide dressée près de Memphis. Elle fut effrayée. Elle resta atone et sans voix. Je vis plus tard le châtiment qui la frappa. Elle devint comme un animal domestique et on l'enferma pendant longtemps par prudence. On lui jetait de l'herbe et du foin dans une crèche. Seul un serviteur se tenait près d'elle, pourvoyante à sa nourriture. Et lorsqu'elle fut libérée ensuite, elle sombra de nouveau dans une folie furieuse. Finalement, elle mourut de façon atroce, ses entrailles furent arrachées de son corps, elle avait vécu 117 ans. Melchisédek était considéré comme un prophète, un sage, un homme d'une essence supérieure, à qui tout réussissait. Il y eut à cette époque et même plus tard diverses apparitions de personnes d'un ordre supérieur et elles étaient aussi peu étrangères au peuple de ce temps que les anges à Abraham. Abraham était d'ailleurs en relation avec eux. Il se produisit d'ailleurs également des apparitions néfastes à côté des bonnes comme se dressent des faux prophètes à côté de véritables. La sortie de cette tribu sémitique de Sémiramis de Babylone sur la terre promise a des points de ressemblance avec l'histoire de la sortie des Israélites hors d'Égypte. Mais pour ces premiers, ce ne fut pas aussi long. Parmi les Samanes établis par Melchisédek dans la terre promise, je vis trois hommes qui vivaient dans des cavernes à proximité du Tabor, sur le mont appelé Montagne du Pain, Moreh. Longtemps avant l'apparition d'Abraham, ils étaient plus bruns de peau qu'Abraham, se vêtaient de toisons de bêtes et se protégeaient du soleil en couvrant leur tête de grandes feuilles. Ils menaient une vie sainte, suivant la sagesse d'Enoch. Ils avaient une religion secrète simple avec des révélations et des visions sobres. Leur religion était basée sur le fait que Dieu voulait faire alliance avec les hommes et qu'ils devaient tout mettre en œuvre pour s'y préparer. Ils faisaient également des offrandes en laissant le tiers de leur nourriture exposée au soleil, à moins que ce ne fût à l'intention des pauvres et des affamés, ce que j'ai vu également. Ces personnages vivaient tout seuls, séparés des autres habitants du pays, et qui demeuraient loin les uns des autres dans des endroits bâtis à l'image de campements de tentes. Ces hommes, je les ai vus parcourir les diverses régions du pays, creuser des fontaines, arracher les mauvaises herbes, poser des fondations à des endroits déterminés où s'élevèrent par la suite des villes. Toutes les villes de la terre promise ont été ainsi fondées en partie par Melchisédek et par ces trois personnages établis par lui sur la terre promise. Je les ai vus chasser les esprits mauvais de l'air dans les régions entières et les confiner dans d'autres endroits stériles, marécageuses et brumeux. J'ai vu de nouveau que les mauvais esprits se tiennent en de tels endroits. J'ai vu souvent ces hommes combattre ces mauvais esprits, lutter contre eux, par la prière, la pénitence et l'espérance. Et au début, je m'étonnais en voyant que les emplacements où ils disposaient les pierres étaient de nouveau recouverts par la végétation et revenaient à l'état sauvage, et que pourtant des villes devaient s'y dresser. Je vis dans une image une foule de lieux bâtis sur l'emplacement de ces pierres, par exemple Safed, Bethsaïde, Nazareth. Ils y travaillèrent à l'endroit même où se dressa plus tard la maison dans laquelle Marie reçut l'annonce de l'ange, Gathéfer, Séphoris, dans la région où s'éleva plus tard la maison d'Anne, près de Nazareth, Megiddo, Naïm, Aïnon, les grottes de Bethléem et près d'Hébron. J'ai vu aussi la fondation de Mishmetat et beaucoup d'autres lieux que j'ai oubliés. Sur cette montagne, j'ai vu donc ces hommes se réunir chaque mois avec Melchisédek. Melchisédek leur apportait un grand pain carré d'une dimension de 3 pieds, assez épais. On le partageait en de très nombreux petits morceaux. Ce pain était cuit sous la cendre. Je vis Melchisédek venir à eux toujours seul. Parfois, je le voyais porter ce pain très légèrement, comme s'il planait entre ses mains. Parfois, lorsqu'il s'approchait d'eux, le pain était très lourd et il le portait sur son dos. Je crois que cela vient du fait que, s'approchant d'eux, il devait leur apparaître comme un homme. C'est ce qu'il fallait selon la volonté de Dieu. Et eux se conduisaient envers lui avec un très grand respect, se prosternaient la face contre terre. Melchisédek leur apprit aussi à cultiver la vigne sur le Tabor. Et ils semèrent dans de multiples endroits de ce pays toutes sortes de graines que Melchisédek leur donna. Et ces plantes, encore aujourd'hui, poussent à l'état sauvage abondamment sur la terre de Palestine. Je les ai vus rompre chaque jour un morceau du pain de Melchisédek avec l'outil brun dont ils se servaient pour travailler. Ils dégagèrent les chemins vers Cana, Megiddo, Naïm, relièrent ainsi les lieux de naissance de la plupart des prophètes du futur. Ils posèrent les fondations de Abemaloa et d'Otai et creusèrent le beau bassin de fontaine de la fontaine de Bethulia. Melchisédek, lui, parcourait le pays seul, comme un étranger. On ne savait pas où il était, ni où il habitait, ni où il s'arrêtait. Ces gens étaient âgés, mais eux étaient très rapides. J'ai vu souvent, sur la mer Morte et en Judée existaient déjà des villes, ainsi que quelques-unes dans le haut pays, mais pas au centre. Ces gens avaient eux-mêmes creusé leur tombe. Ils s'y couchèrent, l'un près d'Hébron, l'autre sur le Tabor, et le troisième dans les cavernes non loin de Safed. Ils furent en tout pour Abraham ce que Jean-Baptiste fut pour Jésus. Ils préparèrent et aménagèrent le pays et les chemins. Avec Melchisédek, ils semèrent de bons fruits, captèrent l'eau pour le patriarche du peuple de Dieu. Jean-Baptiste, lui, avait préparé les cœurs à la pénitence et à la naissance nouvelle en Jésus, et eux accomplissaient pour Israël ce que Jean avait accompli pour l'Église. Je vis aussi d'autres hommes semblables en d'autres lieux qui avaient été aidés, envoyés, enseignés par Melchisédek. Souvent, J'ai vu Melchisédek quand, bien avant le temps de Sémiramis et d'Abraham, il apparut dans la terre promise qui était encore un désert, comme s'il organisait le territoire, comme s'il choisissait et réparait des endroits précis. Il était tout seul, et moi je pensais, que veut donc cet homme ici alors qu'il n'y a encore personne? C'est ainsi que je le vis creuser une source sur une montagne. Cette source, c'est la source du Jourdain. Il avait un long pieu fin qu'il planta dans la montagne comme on plante un rayon. C'est ainsi que je le vis ouvrir dans la terre divers endroits qui devinrent des sources. Dans les premiers temps, après le déluge, je n'ai pas vu les fleuves jaillir et couler comme maintenant, mais beaucoup d'eau qui sourdait d'une haute montagne à l'Orient. Voici donc que Melchisédek prit possession de nombreux endroits dans la terre promise. En les délimitant, il établit les dimensions de la piscine de Bethesda. C'est Jérusalem, ça. Il posa un rocher à l'emplacement où devait s'élever le temple, le Beth Amikdash, bien avant la fondation de Jérusalem. Je vis Melchisédek planter comme du grain les 12 pierres précieuses qui étaient enfouies dans le lit du Jourdain et sur lesquelles se tenaient les prêtres portant l'arche d'alliance au moment du passage des enfants d'Israël, là où Jean-Baptiste baptisa Jésus, qui s'était établi au milieu de ces 12 pierres. Et ces pierres grandirent. Et j'ai vu toujours Melchisédek seul, sauf lorsqu'il devait intervenir dans les filiations, les divisions et la conduite des familles et des tribus primordiales. J'ai vu aussi que Melchisédek fit construisit de ses propres mains les fondations d'un château près de Salem. Mais c'était davantage un campement qu'un château entouré de galeries d'escaliers dans le genre du domaine de Mansour en Arabie. Seul l'emplacement était de roches dures. Je crois avoir vu encore à l'époque de Jean-Baptiste les autres angles où se dressaient les piquets principaux. Ce château avait simplement une assise très solide en pierre qui ressemblait à une aire embroussaillée lorsque Jean y établit sa petite ruche. Ce campement ou château était un endroit où faisaient halte beaucoup d'étrangers et de voyageurs, une sorte de relais libre, précieux, pour l'eau qui jaillissait. Melchisédek, sans doute, que j'ai toujours vu comme le conseiller et le conducteur des peuples et tribus itinérants çà et là, avait bâti ce domaine pour les héberger, les enseigner, qu'ils puissent faire étape, s'y reposer et réaliser les relations bénéfiques des peuples entre eux. En tout cas, cela avait une relation avec le baptême. Melchisédek avait là sa résidence. C'est de là qu'il se rendait à Jérusalem chez Abraham pour ses missions. Il recueillait, établissait aussi des familles et des gens en ce lieu qui se fixaient çà et là. Ceci était bien avant l'offrande du pain et du vin qui eut lieu, à mon avis, dans une vallée au sud de Jérusalem. L'endroit où il travailla et construisit semble avoir été l'emplacement d'une grâce à venir, comme s'il voulait attirer l'attention sur ce lieu, comme s'il entreprenait quelque chose qui devait se réaliser par la suite. Melchisédek appartient à ce cœur d'ange affecté aux pays et aux peuples, qui vint apporter des messages à Abraham et aux patriarches, qui se manifestèrent à eux. Ils se tiennent juste avec et en communion avec les archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Abraham et ses ancêtres étaient une tribu déterminée d'hommes assez grands. Ils menaient une vie de berger, n'habitaient pas Ur en Chaldée à l'origine, mais ils s'y étaient établis. Ces gens avaient une force et une droiture particulière. Ils faisaient la conquête çà et là des régions où se trouvaient de riches pâturages et délimitaient leurs conquêtes, dressaient un autel de pierre, et l'espace ainsi marqué était leur propriété. Il arriva à Abraham, au cours de son enfance, quelque chose de comparable à ce qui se produisit pour Moïse, enfant, car c'est sa nourrice qui lui sauva la vie. Il avait été prophétisé au maître du pays où ils habitaient qu'un enfant merveilleux devait naître, qui serait dangereux pour lui. Cet homme prit donc des mesures en conséquence. Et aussi la mère d'Abraham se tint-elle cachée, et Abraham fut enfanté dans la grotte même où j'ai vu Ève cachée Seth. Abraham y fut élevé en secret par sa nourrice Mara. Elle vivait comme pauvre esclave, travaillant dans la campagne sauvage, et elle avait sa hutte tout près de la grotte qui fut en souvenir d'elle nommée grotte de l'allaitement. C'est dans cette grotte que plus tard elle fut inhumée à sa demande par Abraham. Abraham avait comme nom d'origine Abraham, ce qui veut dire père comblé de peuple. Il vécut en 1900 avant Jésus-Christ. Abraham était d'une taille peu ordinaire. Ses parents le reprirent auprès d'eux lorsque la paix fut revenue et le danger écarté, lui faisant quitter la grotte quand il put passer pour un enfant né avant l'annonce prophétique. Cependant, il fut de nouveau en danger à cause de sa maturité précoce. Alors sa nourrice s'enfuit avec lui et le cacha encore dans la grotte pendant un temps déterminé. Et à ce moment-là, beaucoup d'enfants de son âge furent tués par ce froid. Abraham aimait beaucoup cette nourrice. Plus tard, il l'emmena avec lui dans sa suite sur un chameau. Il habita également à Sukkot avec elle. Elle avait atteint l'âge de 100 ans lorsqu'elle mourut. Abraham alors lui aménagea une sépulture dans le bloc de pierre blanche qui obstruait la grotte comme un monticule. Cette grotte devint un lieu de pèlerinage spécialement pour les mères. En cette histoire entière se trouvait une mystérieuse préfiguration de la persécution immédiate dont Marie fut l'objet avec l'enfant Jésus. Marie, d'ailleurs, veut aussi rentra dans cette grotte pour s'y cacher lorsque les soldats d'Hérode recherchaient l'enfant avec elle. Le père d'Abraham connaissait beaucoup de secrets et recevait beaucoup de grâces. Les gens de sa tribu avaient le don de découvrir l'or dans la terre. Le papa d'Abraham cisela de petites idoles en or semblables à celles que Rachel avait dérobées à Laban. J'ai vu dans la région d'Our, au nord de la Chaldée, à beaucoup d'endroits dans la montagne et dans la plaine, des feux s'élevaient comme si la terre brûlait. Et je ne sais pas si ce feu était d'origine naturelle ou s'il était fait par les hommes. Je vis qu'Abraham reçut de Dieu au cours d'une vision l'ordre de quitter cette terre. Dieu lui montra un autre pays et sans poser de questions, Abraham rassembla le matin suivant tous ses gens. Le matin suivant, tous ces gens pour partir. Il se mit en route. Par la suite, je vis qu'il avait établi ses tentes dans une région de la terre promise, où, comme il m'a paru, se dressa plus tard Nazareth. Abraham bâtit lui-même en ce lieu un long autel de pierre, abrité sous une tente. Lorsqu'il se prosternait devant l'autel, une nuée éclatante descendait du ciel sur lui, et un ange messager de Dieu venait à lui et lui parlait, lui communiquant un don de luminosité qui l'irradiait. L'ange parlait avec Abraham, et Abraham reçut le secret de la bénédiction. Le caractère sacré du ciel, l'ange ouvrit son vêtement et déposa ce secret sur sa poitrine. Il me fut dit toutefois que c'était le sacrement de l'ancienne alliance. Abraham n'en connaissait pas encore le contenu qui lui était voilé, comme nous est caché le contenu du Sanctissime Sacrement. Mais cela lui fut donné comme objet sacré, gage de la prospérité future qui lui était annoncée. L'ange était en tout point semblable à celui qui annonça à la Sainte Vierge l'incarnation du Messie, et il était tout aussi doux et calme dans ses enseignements. Et c'était au même endroit, mais non pas aussi rapide et empressé que d'autres anges que j'ai vus à l'œuvre. Je crois qu'Abraham porta toujours cette chose mystérieuse sur lui. L'ange lui parla également pour l'en prévenir de Melchisédek, qui devait un jour accomplir l'offrande devant lui, offrande qui serait réalisée pleinement après la venue du Messie et durerait jusqu'à l'éternité. Alors Abraham sortit d'un coffret 5 grands os qu'il disposa en forme de croix sur l'autel. Il alluma du feu devant et fit l'offrande. La lumière brillait comme une étoile, blanche au centre, avec des rayons rouges. Abraham ne restait pas toujours là. Je l'ai vu un jour, il fut obligé de partir en Égypte avec Sarah. Il s'y rendit à cause de la famine, mais aussi pour récupérer un trésor qui se trouvait dans ce pays pour y avoir été apporté par un parent de Sarah. Dieu le lui avait demandé. Alors il partit là-bas. Le trésor était un registre généalogique des enfants de Noé, et plus particulièrement de Sem jusqu'à Abraham. Constitué de plaques d'or triangulaires rassemblées entre elles, et c'est la fille d'une sœur de la mère de Sarah qui l'avait emportée avec elle en Égypte, cette femme étant venue en ce pays avec le peuple nomade de la race de Job. Elle avait été servante là-bas. Elle avait dérobé ce trésor comme Rachel déroba les idoles de Laban. Et cet arbre généalogique était semblable à un plateau de balance avec ses chaînes. Les chaînes notamment consistaient en un assemblage de petites plaques triangulaires avec des arêtes séparées. Sur toutes étaient gravés les noms des gens de la tribu de Noé, particulièrement ceux de la descendance sémite, avec des figures, des lettres, et quand on lâchait ces chaînes, tous se retrouvaient recoupés dans le plateau. J'ai entendu également combien de cycles, c'est-à-dire, c'est le nom d'une mesure de poids, l'ensemble pesait, mais je l'ai oublié. Ce registre généalogique était arrivé entre les mains des prêtres et de Pharaon, qui n'étaient pas parvenus, malgré leurs éternels calculs de toutes sortes, à en saisir toutes les arcanes. Or Pharaon, se voyant atteint de graves maladies, prit conseil de ses prêtres idolâtres et décida donc de donner suite à Abraham de tout ce qu'il lui demandait. J'ai vu plusieurs fois, à son retour en Palestine, Melchisédek avec Abraham. Il venait de la même façon que les anges qui souvent se manifestaient à Abraham. Un jour, il lui ordonna de faire une triple offrande de pigeons et d'autres oiseaux. Il lui prophétisa le sort de Sodome et celui de Lot, lui annonçant qu'il reviendrait à lui pour accomplir l'offrande du pain et du vin. Il lui indiqua aussi ce qu'Abraham devait demander à Dieu dans la prière. Abraham était toujours rempli de respect devant Melchisédek, dans l'attente de l'offrande prophétisée aussi. Aussi construisit-il un très bel autel qu'il abrita sous une hutte de feuillage. Puis un jour, Melchisédek arriva pour l'offrande du pain et du vin. Il fit annoncer à Abraham sa venue comme roi de Salem par des messagers. Abraham alla à sa rencontre, s'agenouilla devant lui, reçut sa bénédiction. Ceci se passa dans une vallée au sud de la plaine fertile qui s'étend vers Gaza. Melchisédek était venu de l'emplacement où plus tard s'éleva Jérusalem. Il avait avec lui une monture grise très rapide, à l'encolure courte et trapue, très chargée. D'un côté, l'animal portait un tonneau de vin aplati sur la face qui touchait le flanc de la bête, et de l'autre côté, une caisse dans laquelle se trouvaient dressés les uns contre les autres des pains plats de forme ovale, ainsi que le calice, même que j'ai vu plus tard lors de l'institution du Saint-Sacrement au cours de la scène, et des gobelets en forme de petits fûts. Ces récipients n'étaient ni en or ni en argent, mais comme d'une pierre précieuse translucide, brune. Ils me paraissaient avoir poussé comme des plantes et non avoir été fabriqués de main d'homme. Melchisédek faisait la même impression que le Seigneur au cours de sa marche apostolique. Il était mince, très mince et grand, extrêmement grave et doux. Il portait un long vêtement si blanc et lumineux que cela me rappelait le vêtement blanc dans lequel le Seigneur se montra à la transfiguration. La tunique d'Abraham était toute terne en comparaison. Il portait également une ceinture ornée de lettres, comme en furent plus tard revêtus les prêtres juifs. Et je vis que, comme eux, il était coiffé pour cette offrande d'un couvre-chef plissé. Ses cheveux étaient d'un jaune éclatant comme de la soie longue et lumineuse que celui que j'avais vu à Adam, et son visage rayonnait. Le roi de Sodome avait déjà établi ses campements non loin d'Abraham lorsque Melchisédek s'approcha. Et aux alentours étaient de nombreuses personnes avec des animaux, des sacs, des coffres. Tous s'étaient inscrits dans un silence prêt pour une fête remplie de respect pour l'arrivée de Melchisédek, dont la présence les intimidait. Melchisédek s'approcha de l'autel. Il s'y trouvait une sorte de tabernacle dans lequel il déposa le calice. Il y avait aussi un creux sur l'autel, sans doute pour le sacrifice. Comme à chaque cérémonie d'offrande, Abraham avait disposé les ossements d'Adam sur l'autel, reliques que Noé avait déjà avec lui dans l'arche. Devant ces reliques, il suppliait que Dieu voulût bien réaliser la promesse du Messie annoncée à Adam. Melchisédek étendit d'abord sur l'autel une couverture rouge qu'il avait apportée avec lui, puis dessus une nappe blanche transparente. Sa cérémonie me rappela la Sainte Messe. Je le vis élever le pain et le vin, les offrir, les bénir, rompre le pain. Il tendit à Abraham le calice qui devait servir plus tard à la scène, afin qu'il y bût. Les autres burent dans des petits gobelets qui furent représentés à tout le peuple par Abraham et par les assistants les plus rapprochés de l'autel, ainsi que les pains rompus. Ils reçurent des morceaux plus grands que ceux qui furent donnés à la scène. Je vis ces morceaux briller et ils étaient seulement bénis et non consacrés. Les anges ne peuvent pas consacrer. Alors tous furent stimulés à se tourner totalement vers Dieu. Melchisédek tendit à Abraham du pain et du vin pour son usage, et celui-ci reçut du pain plus fin et plus lumineux que les autres. Il en obtint beaucoup de force et un tel accroissement de sa foi qu'il n'hésita pas ultérieurement à offrir son fils, enfant de la promesse sur l'ordre de Dieu. Il prophétisa et dit ces paroles. Ce n'est pas ce que Moïse donna aux Lévites sur le Sinaï. Je ne sais si Abraham lui-même effectua également l'offrande du pain et du vin, mais ce que je sais, c'est que le calice dans lequel il but est celui-là même dont Jésus se servit pour instituer le charisme. Lorsque Melchisédek donna sa bénédiction à Abraham lors de l'offrande du pain et du vin, il l'institua prêtre. Il prononça sur lui les paroles que voici. Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré et ne s'en dédira point. Alors, prononçant ces paroles, il étendit les mains sur Abraham. Et par la suite, celui-ci lui versa la dîme. Et j'ai eu connaissance de la signification du versement de la dîme par Abraham, mais je ne me souviens plus de la cause pour laquelle c'était si important. J'ai vu aussi que lorsque David composa ce psaume, il eut une vision parfaitement claire et lumineuse de la consécration d'Abraham par Melchisédek, et qu'ayant entendu ses paroles, il les reprit dans le psaume, leur donnant la portée prophétique. Les mots « siège à ma droite » ont une signification particulière. Lorsque la génération éternelle du Verbe m'est montrée sous forme d'image, je vois le Fils sortir de la droite du Père dans une manifestation lumineuse entournée d'un triangle, comme lorsqu'on se représente l'œil de Dieu. Dans le sommet du triangle, je vois le Saint-Esprit, mais cela, je ne peux pas le décrire, c'est totalement inexprimable. J'ai vu également Ève sortir du côté droit d'Adam, et les patriarches qui portaient la bénédiction dans leur côté droit, ils plaçaient à la droite les enfants à qui ils donnaient leur bénédiction. Jésus a reçu le coup de lance à droite, et l'Église est née du côté droit du Messie. Et lorsque nous entrons dans l'Église, nous pénétrons dans le côté droit de Jésus, et nous sommes en lui, unis au Père. Je pense que la mission de Melchisédek sur la terre fut achevée avec cette offrande et la consécration d'Abraham, parce que je ne vis plus jamais Melchisédek par la suite. Il donna et confia le calice et les six gobelets à Abraham. Abraham se tenait en prière assis devant sa tente Et sous un arbre où aboutissait la route principale, il venait souvent là pour proposer l'hospitalité aux voyageurs de passage. Tout en priant, il contemplait le ciel. Il eut alors la vision de Dieu, comme dans un rayon de soleil, qui lui annonça la venue de trois personnages venus vêtus de blanc. Aussitôt après, il immola un agneau, il l'offrit en holocauste, et je le vis ravi en extase devant l'autel, priant pour le salut des hommes. Connaissant ce que cet agneau était, il voyait à travers cet agneau l'agneau véritable. L'autel se dressait à droite du grand arbre. Dans une enceinte à ciel ouvert plus à droite de l'arbre, se levait une autre tente dans laquelle on rangeait les instruments pour le sacrifice, et dans laquelle Abraham se tenait le plus souvent lorsqu'il avait à traiter avec ses bergers des environs. Assez loin de cet endroit, l'habitation de Sarah et de sa maisonnée bordaient la route. Les femmes vivaient toujours un peu à part. Le sacrifice d'Abraham se terminait à peine. Il aperçut les trois anges et les trois personnages donc sur sa route. Sous forme angélique, ils s'avançaient à égale distance l'un de l'autre. Ils portaient des vêtements retroussés. Abraham, les voyant, se hâta vers eux, s'inclina devant eux en louant Dieu. Il les conduisit vers l'enceinte de l'autel où ils déposèrent leurs vêtements. Ils ordonnèrent au patriarche de s'agenouiller. Je vis la merveilleuse opération qui se réalisa par l'intermédiaire de ces anges pour Abraham, ravi en extase. Tout s'effectua en peu de temps, comme tout ce qui se passe en de telles circonstances. Je vis le premier ange annoncer au patriarche agenouillé que Dieu voulait susciter dans sa descendance une vierge immaculée, sans péché, destinée à enfanter le Sauveur, et que lui-même Abraham... mais que lui-même Abraham devait recevoir ce que Adam avait perdu par le péché. Alors l'ange lui présenta une parcelle de nourriture étincelante et lui fit boire le liquide lumineux contenu dans une petite coupe. Sur ce, il traça de sa droite une bénédiction sur Abraham, comme une ligne droite de la tête jusqu'au-dessous du torse, et ensuite de l'épaule droite, puis de l'épaule gauche jusqu'au-dessous du torse. Ah oui, vous avez le signe. Là et là, où les trois traits de la bénédiction se rejoignaient. Ensuite, l'ange tendit à deux mains quelque chose de lumineux vers la poitrine du patriarche, comme une petite nuée que je vis pénétrer en Abraham, comme Jésus traversa les portes du Sénèque sans l'abîmer. J'ai eu l'impression que celui-ci recevait la présence réelle du Saint-Sacrement. Le second ange annonça à Abraham qu'il devait, avant de mourir, transmettre au premier de Sarah le secret de cette bénédiction, comme il l'avait lui-même reçu, et que son petit-fils Jacob serait le père de 12, qui seraient les 12 colonnes et les 12 fondations du peuple de Dieu. L'ange dit également que cette bénédiction serait retirée à Jacob lorsque celui-ci aurait donné naissance à un peuple tout entier, et qu'elle serait rendue comme mystère sacré et bénédiction pour tout le peuple dans l'arche d'alliance. Alors la bénédiction et cette présence, vous voyez, le dépôt béni et lumineux, appartiendra au peuple tout entier de Dieu. Ce mystère ne pourrait être obtenu que par la prière. L'ange révéla aussi à Abraham que ce dépôt sacré, à cause de l'impiété des hommes, passerait au prophète, et finalement serait transmis à un homme destiné à être le père de la Vierge. J'entendis également au cours de cette prophétie que six voyantes et des signes dans les étoiles annonceraient aux païens la réalisation du salut du monde par la médiation de cette Vierge. Tout ceci se révélait à Abraham dans une vision où il contempla également une apparition de la Vierge dans le ciel, un ange se tenant à sa droite, et lui effleurant la bouche avec un rameau. Et l'Église, sortant du manteau de la Vierge, s'épanouit alors sous les yeux d'Abraham. Le troisième ange annonça à Abraham la naissance d'Isaac, et je vis le patriarche si émerveillé par l'annonce de la Vierge et par son apparition, qu'il ne songeait guère à Isaac. Je pense que la promesse de cette Vierge lui rendit également plus supportable ultérieurement la perspective du sacrifice de son fils. C'est seulement après ces saintes révélations que je vis l'hospitalité accordée aux anges et le rire de Sarah. Je vis aussi Abraham accompagner les anges et intercédait pour Sodome. Suite dans catholique.net. Et c'est l'Ancienne Alliance.
Mais c'est pas lui.